C'est un livre qui est assez particulier. Et pour ceux qui me connaissent, vous allez voir que j'ai changé de Bible. D'habitude, j'ai ma vieille Bible que je traîne depuis 40 ans avec moi. Et puis, en préparant cette prédication, je me suis dit, tiens, je deviens un peu vieux, j'ai besoin. Je me suis acheté cette Bible-là, parce, non pas parce que ça fait style Billy Graham, hein, vous savez, la Bible noire un peu souple du prédicateur, non, c'est pas ça. C'est parce qu'elle a des très gros caractères. Et je ne sais pas, j'arrive mieux à la lire que les autres maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Et je lisais le texte, les différents versets de cette prédication, et il y avait une introduction, il y a une introduction dans cette Bible-là. Et dans cette introduction, il est dit que ce texte du Cantique des Cantiques est un recueil de chants d'amour d'un bien-aimé et d'une bien-aimée qui s'apprécient sans fausse pudeur. Et puis l'introduction développe l'idée qu'il s'agit vraiment ici d'un poème qui parle d'un amour d'une femme pour un homme et d'un homme pour une femme. Mais qu'il n'y a pas forcément besoin d'en faire une transposition vis-à-vis de l'amour de Dieu et encore moins de l'amour de Dieu pour son peuple. Et quand je lisais cette introduction, je disais « Ah bon, c'est juste une histoire d'amour entre un homme et une femme. » Alors je dis « Mais pourquoi c'est dans la Bible alors ?» Et quand je lisais cette introduction, ça me renvoyait en fait l'interprétation du Cantique des Cantiques qui est souvent effectivement vue comme, y compris par ceux qui apprécient la grande littérature, c'est un des plus beaux poèmes d'amour. Shir Hashirim, c'est-à-dire le chant de tous les chants. Le summum des chants d'amour. Mais en même temps, j'ai envie de dire, s'il s'agit que de l'histoire d'amour d'un homme pour une femme, fut-il pour l'homme Salomon, quel intérêt ça a pour moi? Je suis bien content pour Salomon, mais quand on connaît Salomon, ce n'est pas un modèle d'amour. Je ne sais plus combien il avait, quelque chose comme 60... Dans le Cantique des Cantiques, il est dit qu'il avait plus de 60 femmes et un nombre incalculable de concubines. On ne peut pas dire que ce soit un modèle d'amour exclusif. Alors, quand je lisais cette introduction, j'étais un petit peu interloqué et je me disais, mais est-ce que ça parle uniquement de cela? Et pour le judaïsme, en fait, pour les juifs et les rabbins, le Cantique des Cantiques, c'est non seulement l'amour d'un homme pour une femme et d'une femme pour un homme, mais c'est aussi, dans le judaïsme, l'amour de Dieu pour son peuple. Alors, un Dieu qui, lui, a un amour exclusif, mais un peuple qui peut avoir quelques fragilités quant à sa fidélité, qui va voir à droite, à gauche, qui revient, mais qui n'est pas dans une très grande fidélité. Le berger, il est ici parlé d'un berger, il est ici parlé dans ce récit de Salomon, il est ici parlé d'une Tsunamite, une femme d'origine africaine. Et ces trois personnages, dans le judaïsme, sont interprétés comme trois personnages agissant dans cette relation d'amour. Alors, longtemps, on a pensé que le bien-aimé dont il est question dans ce chant des chants, c'était le bien-aimé, c'était Salomon. Et puis, on a gardé cette image-là parce que dans le judaïsme, Salomon, c'est une image de la magnificence du roi, je dirais, au summum de sa puissance, de son autorité, et qui donne à Israël une place prépondérante dans le monde de son époque. Et on dit, c'est le bien-aimé Salomon, et puis il aime une jeune femme. Oui, mais alors, s'il aime une jeune femme, que fait-il des autres femmes, des concubines, etc.? Et puis, il y a un berger dans ce récit. Alors certains disaient, le berger, ça doit être Salomon. Oui, sauf que Salomon n'a jamais été berger. Il n'avait pas non plus l'habitude de se déguiser en berger pour jouer avec des reines bergères, des Marie-Antoinette. Il suffit de rapprocher deux phrases comme « Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent ». Et ça, ce n'est pas un berger qui parle à sa bergère. Moi, je dis rarement à ma femme, je vais te faire des colliers d'argent. Il y a un autre verset au chapitre 8, verset 7, « Quand un homme offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, il serait repoussé avec mépris. » En fait, il y a bien une sunamite, ou sulamite, qui appelle 29 fois un homme, le berger, comme son bien-aimé. Mais ce bien-aimé en question, c'est un berger, effectivement. Mais ce n'est pas Salomon. Salomon apparaît dans le Cantique des Cantiques comme un tentateur, comme quelqu'un qui n'a rien compris à l'amour. Alors on se dit, oui, mais c'est Salomon qui aurait écrit ce texte. Pour beaucoup de rabbins, c'est un Salomon à la fin de sa vie qui a conscience de ne pas avoir été fidèle, de ne pas avoir construit, même compris ou connu l'amour réel de l'un par rapport à l'autre. Et en 1771, il y a un pasteur de Hanovre qui s'appelait Jacobi, ça ne s'invente pas, qui a adopté une autre lecture et qui a apporté cet angle de lecture dans le Cantique des Cantiques. Il y a un berger qui est la représentation de Dieu qui aime totalement et parfaitement. Il y a la sunamite qui est la représentation du peuple de Dieu. Et puis, il y a le tentateur, c'est-à-dire Salomon, dans le récit du Cantique des Cantiques, qui vient pour essayer de détourner la sunamite de son berger et de son bien-aimé. Et c'est cet angle-là d'exégèse ou de lecture qui a donné aujourd'hui la possibilité de lire le Cantique des Cantiques d'une manière beaucoup plus intéressante et plus fine, et qui semble pratiquement aujourd'hui être l'angle de lecture le plus intéressant, où l'on a bien le berger, et il suffit de se référer, là aussi, à Christ qui dit « Je suis le bon berger ». Il est le bon berger, ce bon berger du Cantique des Cantiques, celui qui aime son Église, mais qui aime aussi chaque individu de son Église. Je dirais l'amour que le berger porte à la sunamite est semblable à l'amour que Christ porte à chacun d'entre nous. Il ne nous aime pas collectivement. Bien sûr, il aime son Église. Mais il nous aime d'abord individuellement. Moi. Puis celui qui est à côté de moi. Et chaque pierre vivante qui forme l'Église. Et puis il y a, je dirais, tout au long du Cantique des Cantiques, des proclamations de la sunamite qui montrent aussi sa fragilité. On a le berger qui représente Dieu, qui représente Christ, qui aime chacun d'entre nous, qui aime le peuple de Dieu. Il y a Salomon qui vient pour essayer de détourner, on le voit à partir du chapitre 2, qui vient essayer de détourner la sunamite et de l'emmener, je dirais, savourer les richesses de son palais. On a les filles, vous avez dans le Cantique des Cantiques, les filles de Jérusalem. Pour beaucoup, ces filles de Jérusalem qui disent à la sunamite, mais regarde comme il est beau, regarde comme il est riche, regarde comme ce serait tentant pour toi et agréable de vivre dans son palais. Et les filles de Jérusalem, pour les rabbins en Israël, ce sont tout simplement les femmes et les concubines de Salomon qui essayent d'attirer vers le harem de leur maître cette jeune fille qui est courtisée par un berger qui l'aime totalement et uniquement. Alors, la sunamite, c'est nous, c'est l'Église, c'est Israël aussi. Et cette sunamite, elle commence par dire des choses concernant son bien-aimé, et notamment au chapitre 3, au verset 2, elle dit « J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. » Et puis, au verset 4, elle dit « J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai ramené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. » C'est un amour. Et cette sunamite, elle est en recherche. J'aime bien cette idée de chercher, parce que si j'interrogeais chacun de ceux qui sont là ce matin, je suis certain que pour la plupart, vous diriez, qu'est-ce que je l'ai cherché ? Ce Dieu dont on m'a parlé. Qu'est-ce que je l'ai cherché au fil de mes expériences, de mes rencontres, de mes difficultés, de mes souffrances, mais pas que. Il y a des moments où j'étais seul face à moi-même et où j'ai cherché à rencontrer ce Dieu. Il y a deux jeunes filles dans l'église qui m'ont étonné. Elles sont plus là aujourd'hui, elles se sont envolées. Mais les deux, me parlant de leur foi, en tout cas, elles disaient nos parents, ils ne savaient pas trop où on en était par rapport à Dieu. Mais nous, régulièrement, toutes les deux, on interpellait Dieu et puis on lui disait, mais parle-nous, révèle-toi, dis-nous quelque chose. Et toute leur jeunesse, elles ont eu cette attitude à deux de s'accompagner et d'interpeller Dieu. Elles le cherchaient. Leurs proches n'étaient pas forcément au courant. Dit parfois, ils marchaient 20 mètres devant nous et nous, on parlait avec Dieu ou on cherchait à rentrer en communication avec lui. Ah, j'aime bien ce témoignage-là. Aujourd'hui, je dirais, ces deux jeunes filles, elles sont dans la foi. Il y en a une qui m'a dit, maintenant, je voudrais bien que tu fasses ma préparation au mariage. Récemment. Pour elle, c'est une évidence. Chercher Dieu, et elles l'ont trouvé. Comme le dit la Tsunamite dans ce chapitre 3, j'ai cherché sur ma couche pendant des nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et certainement, parmi nous, il y a peut-être des personnes qui disent « Mais je l'ai tellement cherché et j'ai du mal encore aujourd'hui à le trouver. » J'étais au téléphone avec un homme, il y a quelques heures, qui m'appelait et qui me dit « Jean-Marc, ça fait 40 ans que je vis dans la détresse, la souffrance, j'en ai marre, je veux mourir. J'ai plus le courage. » Il me disait, ce qui me retient, c'est en fait de ne pas savoir si Dieu m'accueillera. Je l'ai cherché toute ma vie et il me disait, je ne sais pas si je suis connu de lui. Et pourtant, dans la même phrase, il disait après, mais je l'aime, mais je suis complètement perdu. Alors on a eu une heure de conversation, de dialogue, d'échange. Moi, je suis convaincu que cet homme est au Seigneur. Le témoignage qu'il donne est clair. Mais il est dans la nuit. Comme il est dit ici, sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Et ça, je l'ai entendu hier de cet homme. Alors, on va essayer d'avancer ensemble. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui sont un peu dans la nuit et qui cherchent celui que leur cœur aime ? Est-ce que ça a été votre parcours, votre témoignage ? Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et puis, le témoignage de cette tsunamite, c'est de dire « J'ai demandé aux gardes qui font la ronde dans la ville. Je les ai rencontrés et je leur ai demandé « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Je suis allé dehors et je suis allé voir ceux qui gardent la ville. Et vous savez, je crois que dans le peuple de Dieu, il y a plein de sentinelles qui gardent la ville. N'êtes-vous pas des sentinelles ? N'êtes-vous pas des sentinelles qui gardaient ce monde et qui pouvaient dire « Où est celui ?» que cherchent ceux qui sont désespérés. Est-ce que vous êtes des sentinelles ? Afin que ceux qui sont dans la nuit tournent dans dans ce monde, puissent vous rencontrer et vous demander « Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est, celui que mon cœur aime ?» Je sais bien qu'il y a quelqu'un. Quelqu'un disait « Nous avons tous en nous un vide en forme de Dieu. » Et ces hommes et ces femmes qui ont ce vide en eux, en elles, eh bien, Elle cherche les gardes, les sentinelles qui connaissent. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Nous avons un rôle en tant que sentinelles dans ce monde, afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent trouver Christ, trouver Dieu. Je l'ai saisi, je ne l'ai pas lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. C'est une manière de dire, je l'ai ramené chez moi. Chez moi. C'est ce que nous avons vécu. Peut-être y a-t-il parmi nous encore des personnes qui sont voilà, dans cette incertitude. Où est-ce que je l'ai ramené? Est-ce que j'ai ramené Christ chez moi? Non, parce que le dimanche, en fait, il est à l'église 6 rue Édouard Herriot à Quévin. Il y est, ça, il n'y a aucun doute. Après, quand je rentre chez moi vers midi et demi, 1h, est-ce que je l'ai ramené avec moi? Je ne sais pas. Mais je retournerai dimanche prochain, 6 rue Édouard Herriot, pour le rencontrer. Ce n'est pas cela que veut Dieu. Ce n'est pas qu'il soit rencontré le dimanche matin, mais comme le dit la tsunamite, c'est de dire « Je l'ai saisi, je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené avec moi dans la maison de ma mère. » C'est-à-dire là où j'habite, là où j'ai été construite, cherchée. C'est George Sand qui disait « L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. » J'aime beaucoup cette phrase. L'esprit cherche. Est-ce que ton esprit cherche Dieu? Y compris si tu le connais déjà, mais est-ce que ton esprit continue à chercher Dieu? Et est-ce que c'est ton cœur aujourd'hui et maintenant qui peut le trouver? Une recherche sans que le cœur soit prêt à trouver ce que Dieu peut être, ce que Christ peut être dans ma vie. S'il n'y a que l'esprit qui est partie prenante, ça va être sec. C'est ça? Christ nous a cherchés. Vous savez, c'est comme Joseph dans Genèse 37 qui disait « Je cherche mes frères ». Quand Jacob l'a envoyé chercher ses frères, il est allé dans le désert, dans des endroits un peu paumés, et puis il a dit aux gens qui étaient là « Je cherche mes frères ». Et c'est ce que Jésus a fait. Il m'a cherché. Au moment où l'homme se sépare de Dieu de manière volontaire dans le jardin d'Éden, il est dit que Dieu, venant à sa rencontre et ne le trouva pas, s'écria « Où es-tu ?» C'est la première question dans la Bible de Dieu. « Où es-tu ?» Je sais et je crois que Dieu sait où étaient Adam et Ève, mais il pose ces questions afin que l'homme et la femme puissent dire « Voilà où je suis, Seigneur. » Et certainement que dans notre vie, même si nous sommes convertis, cette question de Dieu retentit toujours et encore. Où es-tu? Où es-tu dans ta foi? Où es-tu dans ta relation avec moi? Où es-tu dans ton service? Où es-tu dans ta vie familiale? On vient de présenter un enfant. J'espère que les parents poseront régulièrement à Yaël cette question. Où est-ce que tu es? Qu'ils n'auront pas comme une évidence l'idée que il est là. Il est là. Encore faut-il lui demander où il est intérieurement, où il est par rapport à Dieu, où il est par rapport à eux. C'est cela. Où tu es par rapport à moi? C'est la question de Dieu. Christ nous a cherchés. Se chercher, finalement, c'est s'engager dans une démarche où il nous semble important de trouver quelque chose qui va combler mes besoins, mes désirs. Et c'est une démarche légitime de chercher. Il n'y a rien de pire que ceux qui ont trouvé. C'est une formule que j'utilise souvent. Dieu préfère les chercheurs que les trouveurs. Parce que celui qui a trouvé, il dit « maintenant, c'est terminé ». C'est clair, j'ai trouvé. Chercher. Mais comment chercher? Ésaïe dira au chapitre 1, verset 19, « Si vous voulez m'écouter, ou si vous voulez écouter, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans le pays. » Si vous voulez écouter, si j'écoute Christ, alors Je mangerai ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que vous avez envie du meilleur ? Non, 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 non. Un bout de quignon rassis, ça me suffira. Pas plus. Hein ? Dans certaines fratries, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours dans une fratrie quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Vous ne connaissez pas ça, vous savez ? C'est celui ou celle... Moi, j'ai 3 enfants, je sais qui est celle qui va être dans cette attitude de « Ah ben, je te le laisse. Ah ben, prends-le. » Hein ? On se sacrifie. Il y a toujours ça dans une fratrie, quand on n'est pas fils ou fille unique. Hein. Mais il y a toujours cet esprit de se sacrifier pour l'autre. Ouais. Mais là, il s'agit d'être dans une position où on dise « Je veux ce qu'il y a de meilleur. » Je suis sûr que quand on... Si on questionnait Océane ou Nathanaël, je suis sûr qu'en tant que parents, ils vont vouloir le meilleur pour leur enfant. Pas le meilleur pour eux ou ce qu'ils voudraient, mais pour lui. On pourrait leur demander dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, on veut le meilleur pour toi. Pas ce qui nous paraît meilleur pour nous, mais pour toi. Est-ce que je peux être dans cette attitude-là et chercher ce qu'il y a de meilleur pour moi? Et comment savoir qu'on l'a trouvé? Je dis toujours, j'utilise beaucoup pour taquiner ma femme le livre des Proverbes. Hein, vous savez, le dernier chapitre parle de la femme idéale, celle qui se lève de bon matin, qui va faire la moisson, qui fait le pain, qui prépare le petit-déj de son mari et tout. Et donc, je la taquine en disant, c'est le profil idéal. Hein. Ouais, mais... Qu'est-ce que c'est que le meilleur ? Est-ce qu'on a ce désir ? Dans Proverbes 19, 22, il dit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. » Messieurs. Messieurs. Je suis très sérieux en disant cela. Combien d'hommes, y compris dans le peuple de Dieu, ne sont pas dans une attitude de cœur vraie, profonde, pour dire la femme qui est à mes côtés est celle qui m'a été donnée par Dieu, qui est un cadeau, qui est une richesse. Moi, je suis reconnaissant. Et je dis à mes enfants, vous ne pouvez pas imaginer la chance que j'ai eue de rencontrer votre mère. Je ne serais pas l'homme que je suis sans elle. Messieurs, est-ce que vous avez cette conscience-là ? Est-ce que ce... Ou alors, il faut arracher. Moi, je vous invite, si ce n'est pas le cas, à arracher la page où il y a Proverbes 19, 22. Ça doit être un texte qui a été rajouté. Mais si c'est la parole de Dieu, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je ne crois pas forcément qu'il y a un homme pour une femme et une femme pour un homme dans ce monde. Déjà, parce qu'il n'y a pas égalité entre les hommes et les femmes sur la terre. Donc. Mais je crois que Dieu peut nous conduire à rencontrer celui ou celle qui peut être un vrai cadeau. Celui ou celle qui peut être le meilleur pour moi. Est-ce que je le dis à l'autre, cela ? Tu es le meilleur. Ou bien est-ce qu'on est dans une violence de conjugalité où on néglige l'autre et on ne le dit pas ? Je pense que c'est plus facile, ou en tout cas plus spontané pour les femmes, de dire à l'homme qui est à leur côté, tu es un cadeau pour moi. Et puis les hommes sont enfermés dans leur difficulté à évoquer leurs sentiments, leurs émotions. Et ils oublient de dire à l'autre, tu es un cadeau pour moi. L'amour. L'amour, c'est d'abord une question de relation. De relation. C'est Jacques Salomé, le psychothérapeute, qui disait, dans une relation, il y a 3 éléments. Il y a moi, il y a l'autre, et il y a la relation qui nous lie. Et il faut tenir compte de ces 3 éléments. Pas simplement de l'autre, mais aussi de la relation. Comment j'entretiens cette relation ? Et au Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4, la tsunami dira je l'ai trouvé, je l'ai saisi, je ne le lâcherai plus. Waouh ! Ça, ça devrait presque faire partie des vœux du mariage quand on célèbre une union, non ? L'homme devrait dire à sa compagne ou à celle qu'il épouse, « Je te lâcherai plus !» Et puis, la femme devrait regarder son futur époux et dire, « Je te lâcherai plus !» Enfin, dans les 5 premières années, en tout cas, je suis sûr. Après, je ne sais pas. La synonymie dit « Je ne te lâcherai plus ». C'est là que notre société a certainement le plus de mal à intégrer dans la dimension de l'amour cette question de la relation. Travailler toujours et encore dans la relation. La relation à Dieu, ce n'est pas quelque chose d'acquis. On ne peut pas dire que parce que je me suis converti, il y a combien de temps ? Longtemps. C'est fait, c'est bon. On attend la fin. Si possible, l'enlèvement, Seigneur, ça m'arrangerait. Sinon, le départ. Mais il n'y a plus rien à faire. Non, non, une relation avec Dieu, c'est quelque chose qui se travaille, qui prend du temps, où le matin, on se lève, on dit bonjour. Il y a des fois, quand je me lève, moi, avant le café, je ne suis pas terrible. Et il y a ma femme qui dit, mais tu ne me dis pas bonjour ? Je dis, oui, oui, bonjour. Je me dis, j'ai intérêt de le dire, sinon ça va gâcher la journée. C'est mal parti. Mais est-ce qu'on dit bonjour au Seigneur le matin ? Est-ce qu'on lui dit bonjour ? Est-ce qu'on dit, ah Seigneur, aujourd'hui je suis content de pouvoir passer cette journée avec toi ? Est-ce qu'on est dans cet entretien de la relation entre moi et lui ? Ou bien de temps en temps, je lui rends visite ? On échange quelques mots. Et, ah, Seigneur, on est lundi. Bonjour. Ben, je te verrai dimanche à l'église. Ouais. Combien parfois notre relation est de cette nature-là. Est-ce que je veux t'aimer, Seigneur, et ne pas te lâcher ? L'amour de Dieu vis-à-vis de nous est un amour qui est un modèle. Dans Philippiens 2,6, il est dit, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2,6. Ça, c'est la qualité de l'amour de Dieu pour moi. Christ, il n'a rien gardé. J'avais un professeur qui est décédé il n'y a pas longtemps, Réon Vaucher, qui disait, le terme pratiquement grec, c'est « il s'est retourné comme une chaussette » ou comme une poche. Quand il est dit « il s'est dépouillé lui-même, il s'est vidé de lui-même en se faisant... » C'est comme s'il s'était retourné pour donner, il n'a rien gardé de ce qu'il avait. Il s'est entièrement donné. Voilà l'amour dont nous sommes aimés. Chers amis, c'est pas un amour formidable. Vous n'avez pas du plaisir à être aimé de cette manière-là par Dieu. C'est fabuleux. Est-ce que je suis dans cette même relation avec moi-même déjà ? Est-ce que je suis prêt à m'aimer de cette manière-là, totalement ? Parfois, quand je me regarde dans la glace, je ne sais pas si je suis prêt à m'aimer d'une manière aussi grande. Ce qu'on appelle l'estime de soi. Beaucoup de personnes auxquelles je m'adresse et je suis allé visiter une personne âgée cette semaine à l'hôpital et elle était sur ce discours, ce regard très négatif sur elle-même, alors que c'est une femme qui a eu une vie là aussi, sans être chrétienne, mais en tout cas une vie où elle s'est donnée aux autres, notamment à des enfants. Et malgré tout, elle a du mal à s'aimer telle qu'elle est. Est-ce que je suis prêt à aimer l'autre de la même manière ? Marie, je reviens sur les maris. Je ne fais pas une fixation, mais comme je suis beaucoup interrogatif en ce moment et je travaille beaucoup sur la question de la place de la femme, et dans l'Église et dans le monde, ça me renvoie aussi à l'attitude des hommes. Et donc, quand il est dit « Marie, aimez vos femmes », parce qu'on lit juste avant que les femmes soient soumises au mari. Ça, ça ne nous pose aucun problème. dit ça. D'ailleurs, c'est surligné. On a mis un stabilo jaune. On dit, puis de temps en temps, on leur ressort. On dit, eh oh, 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 oh sois soumise. Mais Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment il l'a aimé? Il s'est donné totalement. Il s'est vidé. Est-ce que je suis dans cette relation d'amour vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis des femmes dans cette société? Vraie question à laquelle nous aurons à répondre quand nous rencontrerons Christ. Il nous posera la question. Femme, est-ce que tu as été dans une position de soumission, d'écoute par rapport à ton mari? Mais Marie, est-ce que tu as été dans une position où tu t'es donné totalement? Je vais regarder dans ma poche. J'ai gardé quelques petites choses quand même. Je n'ai pas été dans un don et un abandon total. Au chapitre 3, dans le récit du Cantique des Cantiques, on s'aperçoit que la Tsunamite, qui représente le chrétien ou le croyant juif ou l'Église ou le peuple d'Israël, au chapitre 3, on s'aperçoit qu'à un moment donné, elle s'est donnée, elle a ramené chez elle son bien-aimé, mais elle est ressortie dans le jardin pour aller explorer, pour voir d'autres choses. Dans le Cantique des Cantiques, la Tsunamite qui représente le croyant est aussi quelqu'un qui hésite, qui n'est pas entière pendant un certain temps dans le Cantique des Cantiques. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, le carrosse du roi passant, étant invité à venir voir à Jérusalem les richesses du roi, etc., elle va se laisser emporter et tenter par ce que le monde lui propose, l'autre que son bien-aimé. Et ça parle de notre difficulté en tant que croyant d'être dans une position d'entièreté, de totalité, d'amour et d'exclusivité. À un moment donné, la Tsunamite dira « Mon bien-aimé », ça c'est un verset que j'aime profondément, « Mon bien-aimé est comme un pommier au milieu des arbres de la forêt ». C'est-à-dire que les autres arbres, c'est des résineux, ils donnent à la rigueur des pommes de pin, mais ils n'ont aucun intérêt. « Mon bien-aimé, c'est un pommier ». Et son fruit est doux à mon palais. C'est-à-dire que quelque part, ce qu'il est peut satisfaire, me donner du plaisir, tellement il est bon pour moi. Quand j'étais au collège biblique, j'ai rencontré une jeune femme, et je suis tombé amoureux de cette jeune femme. Et puis après, elle est partie. Mais j'étais convaincu que cette jeune femme serait ma femme. Et je suis rentré au Havre, j'ai fait un stage pastoral, et puis pendant 2 ans, j'ai servi dans l'église, et j'ai animé des groupes de jeunes, avec des jeunes filles, plein de jeunes filles et de jeunes garçons. Et puis, je sais que ma maman, elle se disait, il va bien trouver une femme parmi ce groupe-là. Donc elle regardait, elle ne disait rien. Et puis moi, c'était que des arbres. J'avais déjà un pommier dans mon cœur, dans mon esprit. Cet amour exclusif humain qui est attendu dans la vie de couple, c'est aussi cet amour exclusif auquel on est appelé dans notre relation avec Christ. Il ne s'agit pas d'aller voir ailleurs, parce que si ailleurs l'herbe peut être tentante et plus verte, alors se pose la question de ma relation exclusive. Christ a un amour exclusif pour moi. Pour moi. Mon bien-aimé, dira la Tsunamite, est à moi et je suis à lui. Il y a 3 proclamations et je terminerai avec ça. La première proclamation de la Tsunamite, c'est de dire « Mon bien-aimé est à moi ». Ah, ça c'est une trouvaille magnifique. Mais est-ce que tu peux le conserver, ce bien-aimé? S'il s'agit de notre fidélité, malheureusement, de notre capacité de retenir le Seigneur que nous avons trouvé, aucun de nous ne peut regarder avec assurance vers l'avenir. On peut toujours avoir des doutes à cause de nos faiblesses, de nos inconséquences, de l'incrédulité d'un cœur naturel qui vient déposer de la crainte et du doute. Et c'est vrai que la deuxième partie, c'est « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Et ici, dans cette deuxième partie, il y a quelque chose d'intéressant. Dire d'abord Et c'est ce qu'elle dira au chapitre 6, verset 3. « Je suis à mon bien-aimé ». Et dans cette confession, dans cette proclamation, en fait, la Shunamite invertit. Ce n'est pas « mon bien-aimé est à moi ». Elle dit d'abord « je suis à mon bien-aimé ». Et c'est très important de commencer par dire cela. S'approprier quelqu'un comme Christ, c'est une chose. Mais dire « je suis à lui », et c'est, souvenez-vous, pour ceux qui l'ont pris au moment de votre baptême, c'est ce que vous avez proclamé. « Je suis à mon bien-aimé ». Au chapitre 7, verset 10, elle répétera « je suis à mon bien-aimé ». Seras-tu à lui pour toujours, sans aucun doute, parce que mon bien-aimé ne change pas. Il aime parce que Dieu est amour. Je suis l'objet de son affection. J'ai lu dans son propre cœur, dans la clarté de sa face qu'il a tournée vers moi, cet amour qu'il me révèle. Il est même parlé de son désir qui se porte vers moi. Ah, c'est très sensuel. Le livre des Cantiques est rempli de sensualité. Et l'une des dernières paroles de la Shunamite, c'est de dire « l'amour est fort comme la mort. » La mort. Et en fait, quand la Shunamite dit ces paroles « l'amour est fort comme la mort », on ne peut pas ne pas penser à cet amour ultime qui a conduit Christ à la croix. L'amour, je vous assure, je le proclame, je le dis, est fort comme la mort, celle qu'il a accepté de subir pour dire « je t'aime, je t'aime ». Alors, je vous invite à relire le Cantique des Cantiques comme un modèle de l'amour de Dieu pour moi, mais aussi de la fragilité de mon amour. Et de dire « voilà, Seigneur, je suis à toi ». Renouveler ses vœux en proclamant cela dans la prière. « Je suis à toi ». Dans le secret de votre chambre, pouvoir dire à Dieu « je suis à toi et tu es à moi ». Merci Seigneur pour cette réalité. Je suis aimé de toi. Tu viens vers moi et tu veux révéler, manifester ton amour, ta tendresse, jour après jour. Je sais que tu prends soin de cette relation entre moi et toi. Et je veux, parce que l'amour est affaire de volonté et non pas seulement de sentiment, je veux, Seigneur, prendre soin de ma relation avec toi. Je veux être à toi comme tu es à moi. Il y a là un enjeu pour ma vie, afin que je garde et que je conserve le meilleur à ce que je te choisisse toujours et encore. Alors Seigneur, que cette parole partagée ce matin me conduise, moi, à te choisir toujours et encore. Par ton Esprit Saint, parle à mon cœur, parle à nos cœurs. Amen.